Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1992, Alain Weinstein invitait les auditeurs de son émission « Du jour au lendemain » à découvrir la bibliothèque de Marcelin Plainet. Poète, critique, auteur de nombreux essais sur l'art et la littérature, mais aussi romancier, pour l'entretien que nous allons entendre, Marcelin Plainet avait choisi de tirer de leur rayonnage les œuvres de François Rabelais. Un choix qu'il justifiait par la parution en une même année de Gargantua et de Pantagruel chez POL, préfacé par François Bon, d'un Rabelais que signait Jean-Marie Laclaftine, d'un texte de Milan Kundera titré « Le jour où Panurge ne fera plus rire » dans le numéro 39 de la revue L'Infini et dans ce même numéro d'une réponse de Jean-Marie Laclaftine à la préface de François Bon. Au micro de Alain Weinstein, Marcelin Plainet disait ce que lui inspirait cette coïncidence d'intérêt pour Rabelais qui n'avait pas manqué de l'intriguer de la part de ses trois auteurs. D'autant qu'à travers eux, les motifs d'aimer Rabelais semblaient ne pas s'accorder. Quant à lui, de Rabelais, que certains ont pu dire apoétique, Marcelin Plainet affirmait là qu'il était l'un des très grands poètes de la langue française. Du jour au lendemain, dans la bibliothèque de Marcelin Plainet, une émission diffusée la première fois le 14 novembre 1992 sur France Culture.
Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. Toutes les histoires sont à tout le monde, chacun leur donnant seulement sa propre voix. Du jour au lendemain, dans la bibliothèque de Marcelin Plainet. L'auteur que nous allons consommer ce soir, Marcelin Plainet, c'est Rabelais. Alors peut-être d'abord faut-il nous préciser les raisons de votre choix.
Écoutez, les raisons de mon choix, c'est que viennent de paraître coup sur coup un certain nombre de livres sur Rabelais et un certain nombre de déclarations sur Rabelais. Les livres, je crois que le premier qui est paru cette année, c'est une édition du Pantagruel, avec une préface de François Bon chez Polotchakovsky-Laurence, chez Paul.
Dans sa petite collection de poches.
Dans sa petite collection de poches reliées, qui est quand même un peu cher pour une collection de poches. Enfin, dans sa petite collection de poches. Petite collection de poches, c'est beaucoup dire parce qu'il a publié un Cervantes qui est assez épais. Là, c'est un petit livre. C'est un petit livre qui est passionnant à lire, qui est un pur délice pour les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout ce qu'on veut. Le Pantagruel, c'est un livre merveilleux.
François Bon qui a publié précédemment aux éditions de Minuit un essai sur Rabelais.
Qui a publié aux éditions de Minuit un essai sur Rabelais et qui a publié cette année chez Verdier un petit récit qui s'appelle L'Enterrement et que je considère comme un très 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 beau livre, très émouvant. C'est un récit de deuil, le deuil d'un ami, et c'est un livre très 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 merveilleux. Bon est un véritable écrivain. Je veux dire, il y a une phrase que j'aime beaucoup chez lui, qu'on retrouve dans sa préface et qui prend toute sa mesure évidemment dans la fiction, dans cette fiction là. Donc cette année, cette publication de Rabelais, Pantagruel chez Paul, un livre de Jean-Marie Laclaftine sur Rabelais dans la collection Maison d'écrivains chez Christian Pirot. Jean-Marie Laclaftine est aussi romancier, c'est un romancier pour lequel j'ai également beaucoup d'admiration, qui fait une œuvre très très différente de celle de François Bon. Et à ce point d'ailleurs que il va intervenir, Laclaftine va intervenir sur la préface de François Bon. Plusieurs choses. Bon, Rabelais, on va pas réactualiser Rabelais, merci, il sera toujours actuel. Il sera toujours actuel et toujours relativement peu lu. Ce qui m'a arrêté, c'est que un certain nombre de romanciers, cette année, brusquement, en arrivent à revendiquer Rabelais, et à le revendiquer de façon tout à fait explicite, et à le revendiquer dans une revue dont je m'occupe, où je fais le ménage, qui s'appelle L'Infini. Et dans le numéro 39, alors on trouve à la fois un texte de Milan Kundera qui s'intitule « Le jour où Panurge ne fera plus rire », qui est un texte qui prolonge la réflexion de Milan Kundera sur le roman. Il publie assez régulièrement dans L'Infini des textes où sa réflexion sur le roman se développe. Je suppose que ça va faire un livre prochainement. Et un texte de Jean-Marie Laclaftine qui s'appelle « Pour Rabelais » et qui prend à partie, la préface de François Bon. Donc tout ça m'a semblé vivement intéressant. Voilà deux écrivains très différents l'un de l'autre, qui tous les deux disent aimer Rabelais, qui ne l'aiment pas de la même façon et qui sont un peu mécontents du fait qu'on ne l'aime pas de la façon dont il. Moi, je trouve que ça prouve tout simplement que Rabelais pourrait produire, je suppose, un nombre quantité d'autres textes et informations de gens qui seraient tout à fait en désaccord les uns avec les autres et qui tentent à montrer qu'en effet, et d'ailleurs mon interprétation de Rabelais n'est ni tout à fait celle de François Bon, ni tout à fait celle de Jean-Marie Laclaftine. Je pense que ça démontre tout simplement qu'il faut absolument lire Rabelais, qu'il y a beaucoup, beaucoup à trouver là.
Commençons par parler du Rabelais de Marcel Plenet, alors, avant d'aborder celui des autres.
Écoutez, on peut en parler de différentes façons, mais on peut en parler à travers les autres, parce qu'il me semble, que aussi bien Laclaftine que François Bon avance des choses extrêmement extrêmement importantes et extrêmement significatives et intéressantes. Aussi bien d'ailleurs Kundera. Ce qui moi m'a arrêté immédiatement, c'est que je considère Rabelais comme un des grands poètes de la langue française, ayant créé, inventer une langue qui est sans égale, qui est d'une richesse musicale, qui est d'une richesse phonétique, qui est d'une richesse d'invention de vocabulaire dont il n'y a pas d'exemple, d'autres exemples de cette ampleur dans la langue. Tout ça en réussissant, en effet, à ce que l'invention de cette langue soit tout à fait adéquate à ce que cette langue entend porter, c'est-à-dire, au fond, quelque chose d'aussi libre et d'aussi peu religieux que possible. Ce qui est très beau venant de la part d'un moine, puisqu'il était aussi moine. Donc voilà, on a trois romanciers. On a trois romanciers qui se préoccupent de Rabelais et qui se préoccupent de la façon suivante. Alors c'est assez intéressant. Et au fond, dans la poésie contemporaine, aucun poète qui s'en occupe. Vous pouvez lire tous les livres qui ont été publiés au cours de ces 40 dernières années sur la poésie contemporaine, vous n'y trouverez jamais cité Rabelais comme origine, vous n'y trouverez même jamais cité Villon comme origine, jamais comme référence, c'est-à-dire c'est une poésie qui n'a jamais goûté de ces plats-là, excepté peut-être la mienne. En effet, c'est pourquoi je me trouve là juge et partie, et surtout partie prenante. Alors, c'est intéressant parce que ces romanciers disent des choses. Et ils disent des choses extrêmement significatives et tout à fait. Par exemple, Kundera dit, donc dans ce numéro 39 de l'Infini, le jour où Panurge ne fera plus rire, Rabelais n'a certainement jamais appelé son Gargantua Pantagruel roman. En effet, il n'a jamais appelé roman. Ce n'était pas un roman. En effet, ce n'était pas un roman. Et Kundera poursuit, ça l'est devenu au fur et à mesure que les romanciers ultérieurs, Sterne, Diderot, Balzac, Flaubert, il en cite quelques autres, s'en sont ouvertement réclamés, l'intégrant ainsi à l'histoire du roman. Ça, c'est un premier point. Voilà donc un grand événement de la langue française et surtout de la langue poétique française, du langage poétique français qui a été à partir du 19e siècle, après le 19e siècle, surtout au 20e, au fond, parce que Hugo va s'en réclamer un peu. On va le voir ressurgir un peu au 19e. Mais surtout au 20e, qui est complètement abandonné. Mais les romanciers, eux, s'en réclament. Et voilà ce que nous dit, un romancier. Ben, tout simplement, si je l'avale, c'est à moi. J'en fais du roman. Ça, c'est pour Kundera. Et quant à François Bon, eh bien, il relève une chose qui, moi, m'a été directement au cœur, parce que ça touche un événement, justement, extrêmement important dans la langue. Eh bien, il relève que Villon qui est de la génération juste avant Rabelais, et qui n'est pas n'importe qui, c'est certainement le premier, le plus grand, et qui va rester très très longtemps, le plus grand poète français, s'il ne l'est pas encore aujourd'hui. Eh bien, il se trouve que Villon figure dans l'œuvre de Rabelais. Il y figure comme personnage dans Pantagruel, dans le quart livre, et on retrouve même des poèmes de Villon dans le tiers livre. Donc il est très intégré. Il est donc très intégré à l'œuvre de Rabelais. Ce qui laisse supposer que Rabelais, en effet, n'était pas étranger au langage poétique et qu'il pouvait peut-être même penser son œuvre comme une œuvre poétique. Je voudrais y revenir plus tard parce que je trouve ça un peu intéressant. Et François Bon poursuit. Fait central, laissé de côté par l'université, la cellule élémentaire, le corps de la langue, l'intrication hypnotique du rythme, le chant tel qu'il s'apprend, peut-être, et surtout de Villon, l'art d'une revendication impossible, comment la fibre humaine en trois mots peut se dire. C'est ainsi que François Bon établit le rapport entre Villon et Rabelais. Donc la question poétique est tout à fait centrale. Elle est tout à fait centrale. Ce qui m'intéresse aussi par ailleurs, c'est qu'évidemment aujourd'hui la poésie est très discréditée, le roman est très crédité, mais je repère chez ces romanciers qui brusquement se préoccupent de Rabelais comme une inquiétude de au fond d'un roman qui ne serait peut-être plus en effet tout à fait le roman du 19e siècle, d'un roman qui serait un roman de la fin du 20e siècle, qui serait un roman qui tiendrait compte d'éléments moins directement rationnels que le roman 19e. D'ailleurs, à ce propos, Kundera a cette phrase qui me semble en effet être une question que les romanciers se posent aujourd'hui et qui est une question auquel, me semble-t-il, la poésie, elle, devrait avoir la possibilité de répondre ou s'offrir la mesure qui répond. Bien entendu, à mon avis, elle n'y répond pas à la poésie contemporaine. Kundera écrit « Le livre de Rabelais devient pleinement et radicalement roman », à savoir, deux points, définition du roman, donc pour Kundera, et de ce que devrait être pour lui le roman contemporain, territoire où le jugement moral est suspendu. En effet, le jugement moral semble suspendu chez Rabelais, il semble suspendu chez Villon, et il semble suspendu dans toute une fibre du langage poétique. Il est tout sauf suspendu dans un certain nombre de romans du 19e siècle. C'est frappant. Donc il y a là un événement qui se produit dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire de la langue en cette fin de 20e siècle, parce que nous y sommes bien à cette fin de XXe siècle. Ça va vite, hein. On la verra, quoi. On peut en être presque sûr, sauf accident. Donc nous y sommes bien à cette fin de XXe siècle. Il y a un événement qui se produit, c'est qu'au fond, la poésie est tout à fait discréditée. Elle a fait beaucoup pour se discréditer elle-même en tombant dans une sorte de nihilisme profond. La poésie est tout à fait discréditée, mais le roman de cette fin du XXe siècle a envie de s'approprier les grands éléments de l'aventure poétique. Et parmi ces grands éléments de l'aventure poétique, évidemment, Rabelais en est un.
Mais alors finalement, cette querelle dont vous parliez, Marcelin Plenet, elle porte sur quoi ? Sur le langage ?
Et là, non, à mon avis, et ça c'est très très intéressant, elle porte sur, au fond, la posture, la querelle, vous voulez dire, entre la Claftine et François Bon.
Les romanciers qui écrivent aujourd'hui sur Rabelais.
Entre deux romanciers, à propos de Rabelais, elle porte sur deux postures d'écriture et deux postures d'existence, au fond, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le livre de Jean-Marie Laclaftine, qui se lit comme avec énormément de plaisir et qui est extrêmement, extrêmement vivant, part d'un choix que je dirais entièrement existentiel. Pour Laclaftine, tout passe par l'expérience immédiate. C'est peut-être pourquoi d'ailleurs on lui a au fond demandé d'écrire dans une collection qui concerne la maison des écrivains. Il en parle relativement peu. Mais il en parle très bien. D'ailleurs, il montre très bien comment. Et ça, c'est très joli aussi. C'est tous ceux qui fréquentent un peu la littérature s'en aperçoivent très très vite comment au fond une petite maison peut produire des géants, n'est-ce pas? La maison où est né Rabelais est une toute petite maison au centre de la France, près de Chinon, une toute petite maison, et de cette maison sont sortis deux grands géants qui sont Pantagruel et Gargantua. Donc la posture de la Claftine est une posture existentielle, alors que celle de François Bon est davantage pour cette préface, davantage tournée vers ce que je dirais l'expérience littéraire, c'est-à-dire la question de l'expérience littéraire qui tiendrait compte de Blanchot. D'ailleurs, il cite à un moment donné Blanchot, tout en constatant que celui-là n'est jamais remonté, que Blanchot n'est jamais remonté jusqu'à Rabelais. Donc, en quelque sorte, François Bon viendrait prendre là le relais de Blanchot pour remonter jusqu'à Rabelais. Ce qui m'intéresse aussi dans cet ensemble d'écrivains et de romanciers qui en tous les cas cette année mettre l'accent sur Rabelais, c'est que bizarrement, alors on voit, n'est-ce pas, Kundera cite Sterne, Diderot, Balzac, Flaubert, je suppose lui-même et quelques autres, on voit François Bon, alors cité très très bizarrement, qui cite-t-il, Beckett, Kafka, c'est-à-dire se situer dans un espace qui à mon avis est tout à fait contradictoire avec sa lecture de Rabelais, ce qui fait qu'il va peut-être y avoir une évolution dans l'œuvre de Bon, c'est-à-dire dans un espace que je dirais de l'esthétique d'Adorno, hein, l'espace nihiliste après les camps de concentration, on ne peut plus écrire de la même façon et on ne peut plus écrire, c'est-à-dire un espace un peu négatif et un peu nihiliste comme ça. Alors tout cite beaucoup de romanciers, il n'y en a bizarrement qu'un qui ne cite pas. il n'y en a bizarrement qu'un, en ce XXe siècle, qu'il ne cite pas, et qui a pourtant cette particularité, d'abord d'avoir lu Rabelais, et même de l'avoir très bien lu, ensuite d'être écrivain comme Rabelais, et puis ensuite d'être médecin, d'avoir été médecin comme Rabelais, et ensuite de produire effectivement dans le français un événement musical, parce que c'est ça Rabelais, un événement musical sans précédent, c'est Céline. Donc, ce qui m'intrigue dans cette affaire romanesque, et dans ce rassemblement des romanciers, c'est qu'au fond, l'horizon poétique qu'ils ont envie de revendiquer, pour leurs œuvres, le fait que le territoire, que le roman soit un territoire où le jugement moral est suspendu, ce qui autorise alors tout à fait à mettre Céline avec, si on suspend absolument le jugement moral, ça arrive tout à fait à mettre Céline avec, à côté de Diderot d'ailleurs que Céline a lu, à côté de Balzac d'ailleurs que Céline a lu, à côté de Flaubert que c'est de Céline a lu, tout ça.
Mais enfin, le nom de Céline arrivant après la phrase d'Adorno, évidemment, ça fait un peu
voilà,
un choc des cultures.
Voilà. Alors tout dépend où on se situe. Est-ce que la fin du XXe siècle va décider de porter le deuil de ce qui, au milieu de ce XXe siècle, était résistible et qui à mon avis restera un deuil tant qu'on ne voudra pas savoir d'où ça vient. Or, il est bien évident que tout ça, ce deuil et cette affaire vient tout simplement de ce qui produit Adorno lui-même, c'est-à-dire de l'idéalisme allemand, c'est-à-dire et même de la critique de l'idéalisme allemand, de la philosophie allemande, c'est-à-dire au fond de ce qui culpabilise Adorno lui-même, parce que la phrase d'Adorno est une phrase de pure culpabilité. Si on ne se sent pas de culpabilité particulière pour une affaire comme celle-là, on la considère dans sa monstruosité, mais on ne se sent pas pour autant forcé de porter et de véhiculer cette monstruosité. Donc, il me semble qu'il y a là, il y a là un point qui serait comme un point aveugle dans l'ensemble de ces discours, et qui fait que ces discours rejoindraient curieusement, mais avec infiniment plus d'ambition, le point aveugle de la poésie contemporaine, c'est-à-dire de ne pas vouloir savoir ce qu'il en est de la vérité. Ce qu'il en est de la vérité de ces histoires et de chacune de ces histoires. De savoir qu'au fond, chacune de ces histoires n'est ni morale ni immorale. Elle est monstrueusement fausse. Elle est tout simplement un désir de mort contre un désir de vie. Et il me semble que, alors oui, c'est le moment, si on pointe ce problème-là. Et c'est peut-être ce que les romanciers pointent. C'est peut-être ce que Kundera pointe. Kundera qui est en train lui aussi de vivre un grand traumatisme historique, d'une certaine façon, subjectivement, c'est inévitable. C'est peut-être alors à ce moment-là qu'on va pointer en effet un désir de vie. Un désir de vie dans un siècle insensé. Dans un siècle qui n'est pas très étranger au nôtre. D'abord, le nôtre, il prend forcément racine, bien entendu. Dans un siècle qui est à la fois un siècle extrêmement riche et un siècle extrêmement monstrueux. Il faut savoir que Rabelais naît en 1494 et meurt en 1553 et que, entre ces deux dates, il va y avoir 63 années de guerre. Il va y avoir 63 années de guerre. Que le même Rabelais qui produit une œuvre qui célèbre le bien boire, le bien manger, le bien vivre, et le fait qu'il n'y a de culture que de cette joie-là, n'est-ce pas, que la vie de la culture qui célèbre le bien boire, le bien manger, le bien vivre, le grec, l'hébreu et le latin, et qui va se battre précisément pour que on autorise l'étude du grec, de l'hébreu et du latin, et qui d'ailleurs va réussir d'une certaine façon. Eh bien, ce Rabelais-là traverse un siècle qui n'est pas très différent d'une autre, mais il n'en porte pas la culpabilité. Il le montre simplement sous l'aspect que le bien-vivre doit voir, c'est-à-dire sous l'aspect monstrueux et tellement gigantesquement monstrueux que risible, que ridicule. Le propre de Rabelais, n'est-ce pas, c'est une phrase qu'il emprunte à saint Thomas, c'est que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est de savoir rire. Ça n'est pas de savoir pleurer, ça n'est pas de savoir souffrir, c'est de savoir rire. Ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est de savoir rire, c'est-à-dire d'aimer la vérité singulière de chaque vie, et de comprendre que cette vérité singulière n'a de dimension que dans la liberté totale d'un homme, sans deuil et sans culpabilité.
C'est même pas le fait de savoir parler alors qui distingue l'homme de l'animal.
C'est, vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui parlent et qui sont des animaux. Il y a beaucoup d'hommes qui parlent et qui sont des morts vivants, c'est-à-dire qui passent leur temps à cultiver la mort et à enterrer les morts. Moi, j'ai entendu sur les bibliothèques des choses extraordinaires venant d'intellectuels contemporains qui sont des gens par ailleurs extrêmement intelligents et extrêmement estimables, et disant qu'au fond les livres dans la bibliothèque c'était des cercueils. Imaginez, ces gens-là ont des cercueils dans la tête, c'est tout ce que ça veut dire, c'est absolument tout ce que ça veut dire. Donc je crois qu'en effet, le propre de l'homme, tout de suite après la parole, et je dirais même avec la parole immédiate, c'est le rire.
Je pourrais conclure, Marcelin Plenet, par la question que je vous posais en commençant, c'est-à-dire votre Rabelais à vous, si on laisse de côté les textes de François Bon ou de Jean-Marie Lacraftine.
Eh bien, mon Rabelais à moi, ce serait le Rabelais de ce rire, en effet. Ce serait le Rabelais de ce rire, que d'ailleurs il inscrit dans une adresse au lecteur en tête de son œuvre. Amis lecteurs qui lisez ce livre, dépouillez-vous de toute affection. En le lisant, ne vous scandalisez, il ne contient mal ni infection. Vrai est qu'ici, peu de perfection, vous apprendrez sinon en cas de rire. Autrement, ne peut mon cœur élire. Voyez le deuil qui vous mine et consomme. Mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. Et je pense bien que c'est cela. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Lacraftine lorsqu'il dit que le rire n'est qu'un moment. C'est un os qui se casse et ça n'est qu'un moment. Le rire, c'est l'intelligence même. Il est à tout moment présent. Bien entendu, de temps en temps, il éclate. Je me souviens que dans ma jeunesse, dans les lieux où je travaillais, dans les maisons d'édition que je travaillais, les bureaux alentours se plaignaient beaucoup de ce que je les dérange parce que je riais trop. Non, le rire n'est pas quelque chose qui a lieu ponctuellement, c'est quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qui passe dans le sang, si je puis dire. Et le rire de Rabelais couvre absolument tout son siècle. C'est ainsi que lorsqu'on veut faire d'un Rabelais un humaniste qui aurait été en proie aux théologiens et à la Sorbonne, il le fut. Il le fut en effet. Mais à ce moment-là, il faudrait faire de Rabelais quelqu'un qui serait davantage tourné vers l'autre aspect de l'humanisme, qui serait l'humanisme protestant, l'humanisme luthérien et l'humanisme calviniste. Or, il se trouve précisément que Rabelais est à la fois condamné, en effet, par la Sorbonne, car il doit être toujours protégé par des évêques et par le pape. Et que au fond le point d'ancrage de toute l'œuvre de Rabelais, si on la regarde un tout petit peu attentivement, c'est de s'apercevoir que ce qu'il aime avant tout et ce qu'il ne va au fond jamais mettre réellement en question, c'est son pays. Il aime la France. Il défend la France. Mais pour le reste, tout ça est sujet de rire. En effet, tout ça est sujet de rire. On essaie de présenter un Rabelais qui aurait beaucoup souffert de la situation du catholicisme en France à l'époque. D'abord, cette situation est extrêmement bizarre, hein, parce que il vit quand même sous François Ier, c'est-à-dire sous quelqu'un qui fonde le Collège de France et l'imprimerie nationale, et qui est un des grands hommes de la Renaissance. Renaissance, de la Grande Renaissance française. Et puis enfin, c'est un moine qui se saoule la gueule, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, qui va même être père d'un enfant à Lyon, un enfant qui va vivre 2 ans et qui va ensuite mourir, qui a 2 reprises de suite pour ne pas être trop emmerdé par les fonctionnaires de la religion catholique, et des fonctionnaires, il y en a toujours partout qui cherchent à emmerder les gens, va avoir directement affaire au pape qui va lui dire, bon bah vous rentrez à nouveau dans les ordres, il quitte les ordres, il se défroque, il devient médecin, et puis au bout d'un moment, il a envie d'y rentrer, on fait appel au pape, il y rentre à nouveau, et puis à la fin de sa vie, il va faire à nouveau appel au pape pour rentrer à nouveau, pour être à nouveau dans la possibilité d'exercer la médecine, etc. Donc ce qui me frappe, mon Rabelais à moi, c'est un Rabelais qui n'est pas religieux du tout, et qui considère avec le même humour et le même rire tous les ridicules de son siècle. Or ça, il est vrai, et c'est un point sur lequel, en effet, Kundera met l'accent. Il est vrai que c'est aujourd'hui, dans notre époque, qui est infiniment plus religieuse que celle de Rabelais. Imaginez aujourd'hui un moine qui vivrait le 10e de ce que Rabelais a vécu. Mais vous auriez une première page de Paris Match et toutes les émissions de télévision consacrées à cette affaire. Ce serait un scandale sans précédent. Nous sommes infiniment plus respectueux de la religion que Rabelais ne l'était, et même que son siècle ne l'était. C'est-à-dire, au fond, nous sommes beaucoup plus calvinistes. Nous sommes beaucoup plus calvinistes parce que Rabelais a été alors très, très explicitement condamné par Calvin, qui trouve son œuvre manifestant une impiété ordurière. Eh bien, nous sommes infiniment plus protestants, infiniment plus calvinistes que le siècle ne l'était. Mon Rabelais, c'est un Rabelais qui est un esprit tout à fait libre et qui va là où est, pour lui, le maximum de liberté. Or, vraisemblablement, parce qu'il suit François Ier pendant très très longtemps, vraisemblablement, le maximum de liberté pour lui, eh bien, ça va être à travers le Concile de Trente, et à travers ce qui se passe autour de cette affaire de Concile de Trente, ça va être la contre-réforme.
Les livres dont vous avez parlé, Marcelin Plenet, alors bon, il y a Rabelais d'abord qu'on peut lire, même si c'est parfois un peu difficile, dans la Pléiade.
Il y a Rabelais dans la Pléiade, qui est une édition en langue ancienne. Il y a le Rabelais, donc, de Paul, qui est une édition, elle aussi, en langue ancienne.
Préfacé par François Bon.
Il y a une édition bilingue qui est excellente du Rabelais dans la collection, je ne sais pas si on le trouve encore dans le commerce, dans la collection L'Intégrale aux éditions du Seuil. Il y a le livre de François Bon sur Rabelais. Il y a le livre de Jean-Marie Laclavatine sur son Rabelais à lui, et qui est un livre qui se lit alors avec grand plaisir et qui apprend énormément de choses sur Rabelais.
Qui est publié chez
Christian Pirot dans la collection Maison d'écrivain.
Et puis il y a le numéro 39 de la revue L'Infini chez Gallimard.
Avec 2 textes sur Rabelais.
Du jour au lendemain, Yann Parent-Ohen, Bernard Treton, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée la première fois le 14 novembre 1992 sur France Culture.